Maurice Renard, L'heure où l'on parle. Des raisons particulières m'avaient fait choisir cette année-là pour m'y reposer bien tranquillement, un hameau perdu au cœur d'une région montagneuse. J'y arrivais un beau matin, portant sur le dos mon sac suisse et mon attirail de peinture, et au seuil d'une maison proprette, j'avisai une femme qui tricotait. Je lui dis que depuis quelques jours, je parcourais le pays pour y découvrir un endroit calme, tout à fait comme celui-ci. Et je lui demandais s'il pensait que quelqu'un du hameau consentirait à m'héberger pendant un mois environ. Cette femme, en m'écoutant, m'examinait, et il faut croire que je lui fis bonne impression, car elle me dit que si je voulais loger sous son toit, elle me prendrait volontiers en pension. Pourvu que vous ne soyez pas trop difficile, parce que je ne suis pas un cordon bleu, vous savez. Nous tombâmes d'accord sur les conditions, et c'est ainsi que je devins le pensionnaire de Madame Amblin, veuve de guerre et cultivatrice. La chambre que je devais occuper était fort convenable. Madame Amblin, lorsqu'il m'y introduisit, me dit d'un ton concentré « C'était la chambre de ma fille. » Je n'insistai pas sur le moment, mais quelques jours de là, Madame Amblin, en me servant un succulent ragoût, car elle cuisinait admirablement en dépit de sa croyance, me confia que sa fille, Marie-Jeanne, était morte 2 ans auparavant. On l'avait trouvée pendue à un arbre dans la forêt. Madame Anglin pleura au récit qu'elle me fit de ces heures tragiques. Je compris pourtant qu'elle y puisait un soulagement, et que ma sympathie lui faisait du bien. Je le compris encore mieux plus tard, lorsque je me rendis compte que Madame Amblin ne s'épanchait pas auprès de ses voisins. Il y avait là en tout 5 feux, 5 foyers, l'un à côté de l'autre. Les habitants étaient frustes, primitifs, et mon hôtesse, si simple, si paysanne qu'elle fût, préférait garder pour elle ses souvenirs, ses regrets, son chagrin. Cette brave femme, au contraire, goûtait une pauvre joie à m'entretenir de ses deuils de son mari tué devant Verdun, et de cette jolie jeune fille, si avenante, dont le suicide stupéfiant avait laissé sa mère à jamais atterrée. Mais comment expliquer ça, monsieur Berger, à 19 ans? Aller se suicider, se perdre dans les bois. Quand on n'a point de motif. Oh, j'évoquais le mystère des âmes et des cœurs, mais Madame Amblin, sans oser me contredire un homme qui a de l'instruction, hochait la tête et restait comme hébété au bord de cet abîme dont j'avais essayé de lui montrer la profondeur. Nous ne causions guère qu'au moment de mon repas qu'elle me servait dans ma chambre, avant de prendre les siens. Le reste du temps, je m'en allais de-ci de-là, peindre des bouts de paysage, ou bien je me livrais à de longues sieste étendue sur l'herbe, ou bien, plus rarement, je m'amusais à faire parler les campagnards. Leur patois me divertissait, leur esprit aussi plein de gros bon sens, leur esprit épais, parfois malin, d'une malice puérile. Trois familles nombreuses, les Chanceliers, les Forgets et les Fromenteaux, un chaume n'abritant que le bonhomme Véronique, type de sexagénaire bavard et vantard, qui charmait Balzac, et dont la conversation était un régal pour un citadin comme moi. Le père Oni, à l'entendre, savait tout faire, n'ignorait rien, et il ne cessait de discourir pour vous en convenir, en convaincre, émaillant son éloquence de facéties rustiques et d'énormes finesses. Avec lui, on ne pouvait jamais placer un seul mot, mais son monologue était si pittoresque qu'on ne songeait pas à s'en plaindre. J'étais au repos depuis 15 jours, lorsque le facteur, qui devait me maudire, car avant que j'y fusse, il ne venait presque jamais jusque-là, il m'apporta une lettre. Je déjeunais. Madame Homelin me dit: Bonne nouvelle, monsieur Berger. Je vois ça à votre figure. Oui, certes, madame Homelin. J'ai écrit à l'un de mes amis, le docteur Moret, que je me trouve bien ici. Et savez-vous, voilà qu'il arrive pour passer avec moi mon dernière quinzaine de vacances. C'est un savant et un homme délicieux, mon aîné de beaucoup moins. Beaucoup, mais que j'aime comme un frère. C'est très bien, mais où va-t-on loger? En effet, c'était le hic. Oh, le problème fut heureusement résolu. Je laisserai ma chambre à Moret et Madame Amblin me dresserait dans une pièce débarrassée. Un lit de sangle qu'elle emprunterait à ses voisins, sommeliers. Le surlendemain, Moret fut reçu par la population avec enthousiasme. Étant un ami, il bénéficiait de la sympathie que je m'étais acquise. Du reste, ce grand beau garçon, aux tempes toutes blanches, a toujours inspiré la confiance et même un respect dont je reconnais que je n'ai jamais été l'objet. Vers le soir, pour qu'il n'y aura plus rien des curiosités de l'endroit, Je venais chez Eunique, et le bonhomme nous accueillit bruyamment, nous dispensa la familiarité la plus flatteuse. Mais il advint que Moret, s'étant approché d'un fourneau sur lequel pétillait une fricassée de champignons, se mit à dire « Et là, mon brave monsieur Eunique, vous n'allez pas manger ces champignons, je suppose. Pourquoi donc ça, monsieur le docteur? Ils ne sont pas tous comestibles. Tenez, celui-ci, celui-là, pas comestibles. Ah, oh, monsieur le docteur, permettez-moi de vous contredire. Pour connaître les champignons, oh, je les connais. Oh, vous pouvez manger cela, je vous garantis que vous ne serez pas malade. Mais je n'en ferai rien, certainement. Rien, dit Moret. Il faisait sombre dans ce taudis. Mon ami prit la poêle, s'enfuit à la fenêtre pour mieux examiner les champignons, et pendant ce temps, Réunique me bourrait le bras avec vigueur, en clignant de l'œil d'une façon peu déférente à l'égard de Moret. Mais certainement, je n'en mangerai pas, répéta celui-ci. Et une accalmie se produisit, mais bientôt les souffrances redoublèrent. Tous les adultes du hameau étaient dans la chambre. Oh, une chance que monsieur le médecin soit là, dit la femme Fauteuil. Moret serra les lèvres et s'approchant de nous, murmura, il est perdu. Cet homme, qui est-ce? Dois-je rien lui cacher? Je connais Eunique, dis-je. Il vaut mieux lui dire la vérité. Et Moret s'exécuta. Monsieur Eunique, votre état pas désespéré. Cependant, si vous aviez à prendre des dispositions, à exprimer des volontés, alors Eunique s'épouvanta, supplia Moret de le sauver, et tout à fait coup affolé à l'idée de la mort et de l'au-delà, il gémit entre d'affreux sanglots. « Je m'accuse, je m'accuse. Écoutez-moi tous. C'est moi qui ai tué la Marie-Jeanne Amblin. Pardon, madame Amblin. Pardon, tous. » Moret, qui lui tenait le poignet, sortit de sa poche un engin métallique quelque apparent, pareil médical, sans doute. Et c'était des menottes qui claquèrent en se bouclant au poignet du moribond. Rassurez-vous, Eunique, vous ne mourrez pas aujourd'hui, mais plus tard et autrement. Vous n'êtes pas empoisonné. Il y a 2 heures, chez vous, près de la fenêtre, j'ai simplement jeté un coup d'œil sur vos excellents champignons, quelques pincées d'une certaine poudre, et enfin un peu un effet plutôt désagréable, mais c'est tout à fait inoffensif. Voyez-vous, nous savions bien, monsieur Barger et moi, que vous avoueriez votre crime. vous croyez être à l'abri de la mort. Et quand j'ai su par une lettre de mon secrétaire que vous mangiez fréquemment des champignons, alors je suis venu, sachant ce qu'il fallait emporter. Notre profession, Réunique, nous a rendus psychologues, Monsieur Darger et moi, Monsieur Darger. Mon secrétaire, qui s'appelle en réalité Gérard, et moi, qui suis le commissaire divisionnaire Jérôme. Allez, Gérard, allez voir, s'il vous plaît, au prochain poste de téléphonique pour prévenir la gendarmerie.